Bonjour à tous, Yacouba Ouédraougo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du vendredi 1er novembre, à 4 jours de l'élection présidentielle américaine, les candidats Kamala Harris et Donald Trump se rendent coup pour coup sur les droits des femmes et des immigrés.
Allez-y voter. L'une des principales raisons pour lesquelles nous gagnerons cet État est que vous avez l'un des pires problèmes frontaliers de tous les États américains. Et je suis le seul à savoir comment y remédier.
Et Donald Trump n'a pas fini. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit hier. Il fera ce qu'il veut. Et voici ce que je vais citer.
Whether the women like it or not.
Que les femmes le veuillent ou non.
Kamala a pour colistier Tim Walz et Donald Trump J.D. Vance, qui sont ses candidats au poste de vice-président des États-Unis. On en saura un peu plus tout à l'heure. Plus de 57 millions d'électeurs américains ont déjà voté par anticipation.
Donc le vote anticipé participe de ces deux choses. Il y a un côté psychologique, il y a un côté social qui fait que nous nous conformons à ce qui est nouveau et nous voulons l'utiliser le maximum possible.
L'historien et analyste politique Mohamed Mbodj analyse Avenir. Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons à Kigali, au Rwanda, où des rescapés du génocide des Tutsis se réjouissent de la condamnation en France d'un ancien médecin rwandais pour complicité de génocide. Ce sera juste avant la page des sports de Nanit Salani. Kamala Harris et Donald Trump se sont rendus coup pour coup sur les droits des femmes et des immigrés à 4 jours de l'élection présidentielle américaine. La candidate démocrate a répondu aux républicains sur les droits des femmes et des immigrés, deux thèmes cruciaux d'une campagne présidentielle américaine très tendue. Michel Joseph.
We are not going.
Kamala Harris continue de vouloir mobiliser les femmes en promettant de rétablir le droit fédéral à l'avortement. En meeting à Phoenix, dans l'Arizona, elle a accusé son rival Donald Trump de ne pas respecter la liberté et l'intelligence des femmes. Son équipe a fait circuler hier un passage d'un meeting du républicain la veille où il se moquait d'un de ses propres conseillers, lui demandant d'arrêter de se présenter en protecteur des femmes.
Et Donald Trump n'a pas fini. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit hier. Il fera ce qu'il veut. Et voici ce que je vais citer.
Whether the women like it or not.
Que les femmes le veuillent ou non. Et nous devons voter parce que c'est la chose à faire. Vous savez, il y a un dicton qui dit que quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le. Et ce n'est pas la première fois qu'il nous dit qui il est. Il ne croit pas que les femmes devraient avoir le pouvoir et l'autorité de prendre les décisions concernant leur propre corps.
De son côté, Donald Trump a de nouveau promis, lors d'un meeting à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, non loin du Mexique, de mettre fin à une invasion de millions de clandestins et de les expulser. Le candidat républicain a fait un lien direct entre immigration et criminalité, qualifiant les migrants sans papier de tueurs, accusés de laisser libre cours à leur folie meurtrière à travers toute l'Amérique.
Ils sont en train de détruire notre pays et ils sont en train de ruiner votre État. Ils laissent entrer des millions de personnes dans votre État. Ils ruinent votre État. Allez-y voter. L'une des principales raisons pour lesquelles nous gagnerons cet État et que vous avez l'un des pires problèmes frontaliers de tous les États américains. Et je suis le seul à savoir comment y remédier. Je l'ai déjà fait il y a 4 ans. Vous n'aviez pas de problème.
Trump a aussi eu un entretien avec le commentateur de droite Tucker Carlson en Arizona, puis tenu un meeting dans le Nevada. Kamala Harris, elle, a continué de mobiliser des célébrités comme l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez, d'origine portoricaine, hier soir à Las Vegas. Elle peut aussi compter sur le soutien de la superstar NBA des Los Angeles Lakers, LeBron James, qui a appelé à voter pour la candidate démocrate.
Plus de 57 millions d'électeurs américains ont déjà voté. C'est carrément l'équivalent d'un tiers du total des votants de l'élection de 2020. qui se sont déjà exprimés. En Géorgie, par exemple, plus de 3 millions de personnes ont déjà voté, soit 45% des électeurs inscrits, un record selon le secrétaire d'État républicain. Cette exceptionnelle participation anticipée pour l'élection américaine alimente les espoirs des deux camps, même si elle reste difficile à interpréter. Pour mieux comprendre l'enjeu et le pourquoi de ce vote anticipé, John Lindon a joint l'historien et analyste politique Mohamed Mbodge, professeur d'histoire à Manhattanville College. Il nous dit d'abord ce qui justifie ce vote anticipé.
Il y a certainement ce qu'on peut appeler le côté pratique des choses. De plus en plus, les gens dépendent sur la possibilité de faire des choses à distance ou à l'avance sans être présents sur les lieux. D'autre part, les leçons à tirer des élections précédentes, en particulier les républicains qui étaient toujours très réticents à adopter les nouvelles technologies pour l'élection, à voter en avance, etc., se sont mis de la partie et donc ont essayé de rattraper et même dépasser, semble-t-il, dans certains domaines, les votants démocrates. Et donc, voilà, donc le vote anticipé participe de ces deux choses. Il y a un côté psychologique, il y a un côté social qui fait que nous nous conformons à ce qui est nouveau et nous voulons l'utiliser le maximum possible.
Est-ce qu'on sait, pour ce qui est de cette élection, à qui profite ce vote anticipé?
Il est très difficile de le dire, bien entendu, mais il semble que de toute façon, les républicains qui ne votaient pas souvent donc de cette façon, l'ont fait de façon massive cette fois-ci. Est-ce que cela veut dire que c'était un avantage? L'avantage des républicains souvent, c'était de se mobiliser le jour du vote, d'être physiquement présent sur les lieux. Mais s'ils votent maintenant, ça veut dire que s'il y a un avantage, disons plus ou moins supposé, cet avantage va s'effacer lorsque le jour du vote, les gens se présenteront devant les urnes, parce que ceux qui auront déjà voté par avance ne se présenteront pas devant les urnes, et ce qui va peut-être faciliter davantage la mobilisation du vote physique par les démocrates. Donc c'est un peu le système des vases communicants, ce qu'on perd ici, on le gagne là-bas, et ce qui se déverse ici, donc se retrouve là-bas. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait un gagnant ou un perdant, mais il est certain que les républicains ont absolument essayé de voter cette fois-ci à l'avance et aussi par courrier, plus qu'ils ne l'ont jamais fait dans l'histoire de ce pays.
Parlons un tout petit peu de la crédibilité de ce vote et de la sécurité des bulletins de vote. Où vont-ils entre le moment où les gens votent et le jour d'élection?
Alors, ces votes sont sécurisés et gardés souvent dans des safes, donc des coffres-forts, c'est un peu l'équivalent, dans les centres de vote des différents counties, donc les comtés et les différents états, et attendant le jour du vote, on ne les compte pas encore. Et ce qui d'ailleurs fait un peu polémique, parce que certains pensent que si on les comptait au fur et à mesure, ça veut dire que le jour du vote, on aurait une quantité moindre à compter et peut-être les résultats sortiraient plus rapidement.
C'était le professeur Mohamed Mbodge, professeur d'histoire donc à Manhattanville College. L'avis du candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, est une histoire typique de jeune garçon de petite ville qui réussit. Il a grandi dans les Appalaches, a fréquenté une université de l'Ivy League et pourrait finir par être élu comme l'un des plus jeunes vice-présidents de l'histoire. Caroline Pressouti, correspondante de la VOA Washington, nous ramène à ses racines. Récit Gabi Dorsil.
Ce n'est pas là qu'il est né, mais c'est ici que J.D. Vance s'appelle chez lui, Jackson, Kentucky.
Quand j'ai demandé ma femme en mariage, je lui ai dit, chérie, je viens avec 120 000 dollars de dettes de l'école de droit et une concession funéraire sur une montagne dans l'est du Kentucky.
Le shérif du comté de Breathitt, John Hallen, nous amène sur un chemin de terre poussiéreux et se gare sur une petite colline. La grand-mère de Vance était connue sous le nom de Mamao.
Il venait toujours ici avec Mamao. Elle l'a mené dans les montagnes pour lui montrer ce qu'était la vie à la montagne. Et apparemment, il a aimé ça.
Vance est né ici à Middletown, dans l'Ohio, et a été principalement élevé par sa Mamao stricte qui jurait souvent et gardait 19 pistolets chargés dans la maison. Avec le nom de son beau-père, J.D. Hummel a remporté sa première élection, ironiquement en tant que vice-président de sa classe du lycée de Middletown. Il a servi dans les Marines, puis a obtenu son diplôme summa cum laude de l'Université d'État de l'Ohio. Ensuite, à Yale, Owens a rencontré Usha Chilukuri, une autre étudiante en droit qui deviendra sa femme. Son ami James Simers les connaissait tous les deux.
Je pense qu'elle a pu aider J.D. à décider de ce qu'il voulait faire, à façonner son chemin futur après la faculté de droit.
Vance se fait connaître au niveau national grâce à son best-seller de 2016, devenu film Hillbilly Elegy sur l'Amérique ouvrière. Il met en vedette Glenn Close dans le rôle d'une maman franche face à un jeune J.D. Avec le soutien de l'ancien président Donald Trump, J.D. Vance, le garçon de l'Ohio qui aime le Kentucky, a été élu sénateur de l'Ohio. Et à peine deux ans plus tard, Trump a choisi Vance comme coulissier. Mais il a eu un départ difficile, ayant auparavant qualifié Trump de répréhensible et ayant affirmé être un gars jamais Trump.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Non, je pense qu'il y a eu de sérieux problèmes en 2020. Alors, Donald Trump a-t-il perdu l'élection? Pas avec les mots que j'utiliserais.
Vance est dur envers la Chine et l'Asie de l'Est, s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine et...
Merde.
En réponse à une question sur le conflit Israël-Hamas,
Kamala Harris, d'un côté, dit qu'elle se soucie vraiment des victimes civiles. Pourtant, elle refuse de donner à Israël les armes qui lui permettent de minimiser les victimes civiles.
Middletown est le fief de Donald Trump. On y retrouve Steve Dillman, qui a offert à J.D. Vance son premier emploi à l'âge de 16 ans.
Je suis très fier de ce qu'il a accompli, et d'en avoir fait partie me fait du bien. C'est un homme qui vient de McKinley Street, et maintenant il pourrait potentiellement devenir vice-président des États-Unis.
S'il est élu, J.D. Vance, à 40 ans, serait le troisième vice-président le plus jeune de l'histoire des États-Unis.
Tim Walz, lui, a été élu deux fois gouverneur de l'État du Minnesota dans le Midwest avant d'être choisi par Kamala Harris comme son coulissier. Au cours de sa campagne, il a parlé de sa formation dans le Nebraska et de la façon dont elle a façonné sa personne. Natasha Mosgovaya de la VOA s'est rendue dans le Nebraska pour recueillir ce que les habitants pensent de lui. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walz, a passé la première moitié de sa vie dans une région rurale du Nebraska, où les éléments les plus marquants du paysage sont souvent les silos à grains. Becky Potmeser, propriétaire d'un ranch près d'Alliance dans le Nebraska, témoigne.
Quand je le vois à la télévision, il ne me fait pas penser à un homme politique. Il me rappelle plutôt celui que j'aurais préféré voir à l'école, car il s'investit vraiment dans sa communauté et ses élèves. Il a vraiment un sens moral élevé et de bonnes valeurs morales.
Walz est né à West Point, dans le Nebraska, et a passé son enfance à Valentine, une petite bourgade de quelques 2600 habitants. Tom Elliott, un habitant de Valentine qui connaissait la famille Walz.
Nous avons suivi la carrière de Tim un peu à distance, je suppose. Cette étape, nous ne l'avons probablement pas vue venir.
Lorsque Walz était adolescent, le diagnostic de cancer du poumon de son père a incité la famille à déménager à 160 km au nord, plus près de la famille élargie.
J'ai grandi à Butte, dans le Nebraska, une ville de 400 habitants. J'avais 24 enfants dans ma classe de lycée.
Les membres de la famille de Walz vivent toujours dans la région. Son oncle, un agriculteur à la retraite, Jerome Reinman, dit qu'il compte voter pour son neveu, mais dit craindre que le gamin dont il se souvient soit trop gentil pour affronter les grands défis du monde.
C'était un gamin comme les autres. Je veux dire, c'était un type bien. Il aimait le sport. Tim ne sera pas assez dur avec Poutine, ça m'inquiète.
Ayant grandi dans le milieu rural, Walz est devenu un passionné de pêche et de chasse. Il n'a pas caché son amour des armes à feu. Son chapeau camouflage a été adopté par les démocrates de l'Amérique rurale. Barbara Critchett a confectionné un ensemble assorti de t-shirts camouflage Harris Walz pour elle et son fils Kendall.
Le camouflage et la chasse représentent le Nebraska, je suppose. Et nous le reprenons simplement pour ce ticket.
Suivant les traces de son père, un vétéran de la guerre de Corée, Walls a rejoint la garde nationale à l'âge de 17 ans et y est resté pendant 24 ans. Mais pour certains électeurs ruraux, le service militaire de Walls et son passé de propriétaire d'armes à feu ne signifie pas qu'ils partagent les mêmes valeurs. Stephen Hale, un habitant de Valentine, pense que Tim Walls est très à gauche.
Non, il n'est pas proche. Il ne dit pas la vérité. C'est le deuxième amendement, n'est-ce pas? Je ne vais pas lui confisquer son arme comme ils essaient de le faire pour nous.
Walls soutient également le droit à l'avortement, ce qui le met à porte-à-faux avec de nombreux habitants du Nebraska conservateurs, où certaines églises ont des monuments commémoratifs pour les enfants à naître et où le paysage est parsemé de panneaux anti-avortement. Certains disent que Walls donne au Nebraska rural son quart d'heure de célébrité. Mais dans cet état conservateur, les racines communes ne sont pas une garantie de vote.
Merci Lionel, ici sur FM, donc cette page spéciale consacrée aux élections américaines. Ne décrochez pas, dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous êtes toujours en compagnie de Yacouba Ouédraogo. La contre-offensive tchadienne contre Boko Haram dans la région du lac Tchad, dirigée par le président Déby, a été accusée hier par des pêcheurs locaux et des milices anti-djihadistes d'avoir tué par erreur des dizaines de pêcheurs au Nigeria en voulant viser des djihadistes. Babakoura Kolo, chef d'une milice anti-djihadiste au Nigeria, a déclaré qu'un avion de chasse tchadien a pris les pêcheurs pour des terroristes de Boko Haram qui ont attaqué une base militaire au Tchad dimanche. Le bilan de ce raid de Boko Haram contre une base militaire de la région du lac Tchad est d'une quarantaine de morts, selon les autorités tchadiennes. En République démocratique du Congo, les premiers vaccins contre le paludisme ont été administrés par piqûre à des enfants âgés d'au moins 6 mois en Bazangungu, ville située dans la province du Congo central dans l'ouest, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. D'après un rapport produit en 2022 par le ministère de la Santé en RDC, le paludisme a causé plus de 24 000 décès et touché plus de 27 millions de personnes, surtout des enfants de moins de 5 ans. Selon l'OMS, la RDC devient le 15e pays africain à proposer la vaccination contre le paludisme. Sur le continent, justement, un enfant décède du paludisme chaque minute, d'après l'organisation. Au Mozambique, des affrontements entre la police et les manifestants ont secoué hier plusieurs villes où l'opposition appelait encore à manifester. Pour contester les résultats électoraux, les autorités ont rendu les réseaux sociaux inaccessibles et promis de réprimer tout dérapage. Les résultats officiels des élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre accordent une large victoire au Frelimo, parti au pouvoir depuis 49 ans. L'opposition dénonce un scrutin volé et a déposé dimanche un recours devant le Conseil constitutionnel pour exiger un nouveau comptage des voix. Les manifestations se sont soldées par au moins 11 morts selon plusieurs ONG. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à une solution politique réaliste et acceptable au Sahara occidental que se disputent le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. C'est dans une résolution prolongeant d'un an, soit jusqu'au 31 octobre 2025, la mission onusienne sur place pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le texte réclame un engagement renouvelé des partis à faire avancer le processus politique et estime que le statu quo n'est pas acceptable. Vaste étendue désertique de 266 000 km², le Sahara occidental est contrôlé par le Maroc à plus de 80% à l'ouest, le Front Polisario moins de 20% à l'est, le tout étant séparé par un mur de sable et une zone tampon sous contrôle des casques bleus de l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique du Sud, le Vatican et le Qatar se sont engagés lors d'une conférence à Montréal à servir de médiateur pour faciliter le retour de Russie de quelques 20 000 enfants ukrainiens déplacés par la guerre. Doha s'est également engagé avec la Lituanie à servir de pays de transit pour contribuer au retour d'Ukrainiens enlevés en Russie, selon le nouvel engagement de Montréal pour le retour des Ukrainiens. Médiateur de longue date dans ce dossier, le Qatar a aidé depuis juillet 2023 à rapatrier des enfants ukrainiens transférés en Russie et dans les territoires sous occupation russe depuis le début de l'invasion en février 2022. Les Émirats arabes unis joueront quant à eux un rôle dans la médiation des échanges de prisonniers de guerre russes et ukrainiens.
Le ministre ukrainien justement des Affaires étrangères a appelé hier les Occidentaux à autoriser son pays à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée. Kiev dit vouloir répondre à l'envoi en Russie de soldats nord-coréens prêts à combattre en Ukraine. Andriy Sibiga a estimé que le déploiement des troupes nord-coréennes à la frontière avec l'Ukraine constituait une véritable escalade dans la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer à ses alliés occidentaux d'autoriser ses frappes, ses forces à frapper à l'intérieur de la Russie. Voilà, c'était tout pour l'actualité. À présent, les dossiers du jour. Au Rwanda, les rescapés du génocide des Tutsis se réjouissent de la peine de 27 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Paris contre un ancien médecin rwandais, Eugène Rwamausio. Il souhaite tout de même que la France accélère les dossiers des autres suspects génocidaires se trouvant sur son sol. De Kigali, le récit de Jean Damasen Manishimwe.
Dans son jugement dans la nuit de mercredi, la cour d'assises de Paris a entre autres reconnu que Eugène Rwamucyo, cet ancien médecin à l'Université nationale du Rwanda à Butare au sud du pays, est coupable d'ententes formées en vue de la préparation du génocide, de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Dès l'annonce du verdict, les rescapés du génocide n'ont pas caché leur satisfaction. Naftar Aïchakiné est secrétaire exécutif de la principale association des rescapés du génocide, Ibuka en sigle.
Très content de la décision prise de condamner Eugène Rwamucyo à 27 ans de prison. C'est une décision qui donne des raisons, surtout aux autres génocidaires qui sont ici et là, dans les pays d'Europe, aux États-Unis, ici en Afrique. Et même si ils sont en train d'échapper à la justice, mais demain ou après-demain, ils seront arrêtés et jugés. C'est quelque chose qui encourage les rescapés du génocide et qui a la soif de la justice. Et dans ces 30 ans, voir Rwamucyo qui vient d'être jugé, c'est une motivation, c'est l'encouragement que même d'autres qui se cachent ici et là seront arrêtés et jugés bientôt.
Pour de nombreuses associations constituées partie civile dans cette affaire, un tel jugement 30 ans après le génocide a son importance, comme l'affirme Maître Gilles Parouel, qui a suivi de près ce procès.
Pour moi, c'est très important. On a eu les exécutants, on a eu les décideurs politiques, que ce soit des bourgmestres, que ce soit des préfets. On a aujourd'hui l'idéologue.
Même si les rescapés du génocide des Tutsis ont généralement bien accueilli son verdict, ils souhaitent que les procès des présumés génocidaires s'accélèrent davantage en France. C'est ce qu'indique Alain Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda.
Et à ce rythme-là, il est bien vrai que toutes les personnes contre lesquelles nous, au collectif des partis civils, nous avons déposé plainte, ne seront pas toutes jugées. Il y en a déjà deux qui sont décédées, d'autres sont très âgées. Donc, effectivement, on ne peut que reprocher cette lenteur de la justice. Je crois qu'il y aurait urgence à faire évoluer cette justice.
Après le verdict, la défense de Eugène Rwamucyo n'a pas caché sa déception et certains de ses sympathisants ont laissé entendre que son jugement était inacceptable. Rwamucyo, 65 ans, est le 8e Rwandais jugé pour génocide à la cour d'assises de Paris. Jean Damasen Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
La ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, connaît une forte métamorphose. Des travaux de construction sont visibles partout et de nouvelles infrastructures ont vu le jour. Un changement qui vient avec son lot de satisfaction pour certains et de frustration pour d'autres en raison des déguerpissements. À l'occasion de la journée mondiale de la ville célébrée hier jeudi, le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio.
La ville d'Abidjan se modernise au jour le jour. Le 10 janvier dernier, un quatrième pont a été inauguré par les autorités pour faciliter les liaisons vers la commune de Yopougon. Cette infrastructure est très bien accueillie par les automobilistes. Serge-Alain Betty, chauffeur de taxi.
Avec beaucoup vraiment de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont développé ce projet-là. Parce qu'ils ont vu la souffrance de nos parents qui, chaque jour, pour aller à Yopougon, à jamais vraiment luttent. Vraiment, merci à ces personnes-là.
La construction de ce quatrième pont a provoqué une vague de dégarpissement à Djamé et à Tekoubé. Le gouvernement projette de construire des logements sociaux et des commerces à ces endroits. Une initiative bien accueillie par certains et mal perçue par d'autres, car les dégarpissements se font parfois sans dédommagement. Madame Abroukoua, habitante de la commune d'Adjamé.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, ils veulent enlever Adjamé? Maintenant, ils sont venus casser là. Nous, on demandait là, nous, on va où? On dort où?
Julien Yameogo, chauffeur de taxi à Cocody.
Il y a quelques semaines de cela, on nous a dégarpé de la gare. Là où nous chargeons pour Boué, Makoré, Koumassé, Yopouan, on doterait tout cela. On nous dégarpé en bordure. Mais aujourd'hui, si on se retrouve en bordure, je pense que ce n'est pas joli à voir. On crée du désordre total si on est en bordure. Et en fait, Dieu merci, le maire a séancé, nous a donné provisoirement un coin pour pouvoir déplacer les clients au niveau de leurs fonctions.
Des spécialistes de la construction apprécient tous les efforts que le gouvernement met dans la transformation de la ville d'Abidjan. Néanmoins, ils préconisent un plan de décentralisation car Abidjan est beaucoup trop chargé. Mamadou Traoré, urbaniste.
L'urbanisation galopante a dépassé les limites du plan directeur d'urbanisme. Et cet abus-là, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Abidjan s'allonge. Ça s'allonge, mais ça ne s'agrandit pas. Ça dit que le noyau de la ville n'est pas encore rempli. Quand vous créez un centre-ville, il faut le densifier. On a trop de maisons basses, on a trop de cours communes et on se plaint qu'on n'a pas de maisons.
Les travaux de construction se poursuivent et la métropole va bientôt accueillir son premier métro et son bus rapide de transit. Ces infrastructures devraient aider à décongestionner les routes et diminuer les embouteillages monstres qui sont une autre calvaire des habitants. Ange Bijounomeyan pour VOA Afrique. Abidjan.
Sans plus tarder, les nouvelles sportives avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Éliminatoire de la CAN 2025 pour commencer, la rencontre Ghana-Niger a été confirmée au stade d'Accra.
Le Ghana accueillera bien le Niger au stade d'Accra. La CAF a validé l'homologation de ce stade qui sera le lieu du match Ghana-Niger prévu pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 le 18 novembre 2024 à 14h temps universel. En octobre, le Ghana avait envisagé de jouer sur terrain neutre en raison de la suspension du Baba Yara Stadium à Kumasi. Cependant, les autorités ont rapidement remis le stade d'Accra aux normes internationales. Après avoir accueilli le match de la troisième journée contre le Soudan dans le groupe F, il sera également le site de la rencontre avec le Niger.
Et puis, cette compétition des moins de 20 ans dans la zone UFOAB, le Nigeria conserve son titre avec brio devant le Ghana.
Les Aigles du Nigeria ont battu le Ghana en finale 2-1 mercredi soir, décrochant ainsi le titre de champion de la zone B de l'UFOA cette année. L'équipe dirigée par Aliou Soubérou a ainsi réussi à défendre le titre qu'elle avait remporté en 2022. Par rebond, Ahiri a été le héros du match avec un doublé. Pour se qualifier en demi-finale, le Nigeria avait battu la Côte d'Ivoire 2-1 après une défaite initiale de 1-0 contre le Burkina Faso. En demi-finale, il a vaincu le Niger. Cette victoire permet également au Nigeria d'assurer sa présence à la CAN 2025 des moins de 20 ans, à laquelle le Ghana est aussi convié en tant que vice-champion.
Et en Europe, l'UEFA investit 1 milliard d'euros pour booster le football féminin d'ici 2030 avec le programme Unstoppable.
L'UEFA a annoncé un investissement d'un milliard d'euros pour développer le football féminin d'ici 2030. À travers le programme Unstoppable, ce plan vise à améliorer la pratique de base, professionnaliser le haut niveau et augmenter l'affluence dans les stades. Il se concentre sur la formation de joueuses, d'entraîneuses et d'arbitres, ainsi que sur la professionnalisation des ligues et le développement commercial des compétitions. L'UEFA souhaite également renforcer la culture des supporters pour augmenter la fréquentation tout au long de la saison. Ce programme s'inscrit dans la continuité d'une stratégie lancée en 2019 qui a déjà permis une croissance des revenus, des pratiquantes et des audiences en Europe.
Merci Nanit. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique. We'll be right back.